Merci beaucoup, Jean, pour cette gentille introduction. Et puis, moi aussi, je voudrais te remercier infiniment pour cette invitation. C'est un grand honneur de parler juste après ton cours au Collège de France et d'avoir l'occasion de présenter un petit peu les travaux de l'équipe à Paris Nord. Donc, je vais me concentrer sur les travaux les plus récents, mais c'est vrai que tu as cité ce qu'on a fait sur les excitations superfluides et de façon générale. Nos travaux depuis quelques années se concentrent sur la dynamique superfluide et les superfluides hors équilibre dans des pièges plutôt non conventionnels, en effet. Juste un tout petit mot sur les groupes atomes froids qui existent au laboratoire de physique des lasers à Paris Nord, que vous connaissez la plupart d'entre vous, mais pas forcément tout le monde. Donc il y a le groupe de Bruno Laburte, le groupe de Gabriel Duthier et le mien, et au total donc cinq dispositifs expérimentaux avec à chaque fois un atome différent. Donc ça permet d'avoir des jolies images avec toutes les couleurs. Donc chez nous c'est rubidium et sodium, mais il y a aussi le montage chrome avec des atomes dipolaires. Vous avez certainement entendu parler. Un nouveau montage strontium et puis l'argon métastable pour Gabriel. Et puis on fait aussi un peu de théorie, surtout du numérique. Là, c'est un exemple récent en collaboration avec Anna Mingozzi à Grenoble. Donc, l'équipe, les personnes qui ont travaillé à ce que je vais montrer, donc les permanents de l'équipe, donc Aurélien Perrin, Laurent Lanchambon qui est dans la salle, Thomas Badre et Romain Dubessy. Et puis, bien sûr, les étudiants et postdocs qui ont contribué. Donc, Avinash Kumar, qui était postdoc sur la partie anneau, avec Camilla Derossi et Mathieu Deguerre. Et sur la partie dynamique rapide dans une bulle, ça avait été initié par Mathieu. Et puis, beaucoup étudié pendant la thèse de Yan Yang Guo, qui vient de soutenir en janvier. Et le nouvel étudiant sur la manip, c'est David Ray. Puis, il y a aussi Manon Valu, qui est dans la salle, qui travaille sur l'expérience sodium. Et enfin, on a des collaborations avec, pour la plupart d'entre eux, des théoriciens. Donc, Maxime Olchani, qui a été cité par Jean, Barry Garaway sur toute la partie RF, Anna Mingozzi sur les anneaux et le 1D, et puis plus récemment avec Vanderlei sur la dynamique superfluide en rééquilibre. C'est une collaboration qui démarre. Donc, je vais un petit peu vous parler de deux grandes séries de manips des gaz quantiques annulaires et des superfluides en rotation dans des géométries non conventionnelles. Et avant, je prendrai un petit peu le temps de vous présenter notre piège, parce que pour bien comprendre nos expériences, il faut aussi comprendre un petit peu en détail qu'est-ce que c'est que ce piège non conventionnel qu'on utilise en forme de bulle, et même un peu dans le détail, comment se passe le confinement avec les champs radiofréquences. Donc avant de commencer, je voudrais que vous révisiez un petit peu les cours des années passées. Parce que tout ce que Jean a enseigné, en gros, depuis 2013, va nous être utile aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va réviser ? Bon, bien sûr, on a besoin de refroidissement laser et piégeage, parce que sinon, on ne peut pas commencer la manip. On va aller chercher dans le cours de 2013 les pièges dipolaires, on va en avoir besoin aussi, et puis les niveaux habillés. Alors ça va être fondamental dans ce que je vais vous raconter, plutôt avec des champs radiofréquences qu'avec des champs optiques, mais quand même. Alors les interactions, là, vous avez eu le premier cours et c'est évident que c'est absolument nécessaire pour décrire ce qu'on va voir ici, en particulier les propriétés superfluides. Et le cours de 2016 sur les condensats et la superfluidité, c'est vraiment là-dessus qu'on va baser la plupart de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, y compris dans ce cours, vous aviez les courants permanents dans les anneaux. Donc, le cours sur les dimensions réduites, il intervient aussi. Alors, on a fait pas mal d'expériences dans nos bulles où on était en 2D, et je ne résiste pas à vous prendre cet extrait du cours de 2017 qui est la manip ciseau dont Jean a parlé brièvement dans l'introduction. Mais pour aujourd'hui, il y a juste un petit moment où on va passer en dimension restreinte, vous verrez. Et puis, sur la topologie, il y a un lien dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui avec les niveaux de Landau, même si on n'a pas exploré beaucoup cette voie-là. Et puis un anneau, après tout, ça a une topologie qui est différente d'un gaz connecté, donc c'est un rapport aussi. Et enfin, bien sûr, le cours sur le magnétisme artificiel, où on a une analogie entre mettre un champ magnétique à des particules chargées ou faire tourner des atomes, mettre les atomes dans un référentiel en rotation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'attacher à faire. Ça va tourner pendant tout le séminaire. Je vous préviens, accrochez vos ceintures. Voilà, alors tout ce que je vais vous montrer est intimement lié aux propriétés de superfluidité des condensats. Et en particulier, je vais insister sur le fait que ces propriétés se voient bien quand on regarde la dynamique de ces objets. Parce que la superfluidité, elle est définie par des caractéristiques dynamiques. Par exemple, l'absence de viscosité quand on place le fluide en mouvement. Et donc ça conduit à l'existence de courants permanents si vous avez le superfluide qui est placé dans un guide circulaire et que, vous, d'une façon ou d'une autre, vous le mettez en mouvement, ce courant doit persister parce que ça ne se dissipe pas. L'existence d'une vitesse critique pour les excitations. Donc si ce fluide est initialement au repos et que vous essayez de l'exciter avec un défaut, avec une cuillère, est-ce que vous voulez, au départ, si la cuillère n'est pas assez rapide, ça ne va pas marcher. Il y a une vitesse critique pour laquelle on peut communiquer de l'énergie au superfluide. Et ça, c'est une courbe qui vient du groupe de Jean, qui est une mesure de cette vitesse critique dans un gaz bidimensionnel. Cette courbe-là, c'est l'analogue de cette expérience, mais avec un autre fluide quantique, des polaritons. Donc là, c'est de la lumière. Et en fonction que la vitesse d'écoulement du fluide polaritonique est plus grande ou plus petite que la vitesse critique, soit il n'y a pas d'excitation, donc on a une densité bien homogène ici, soit on a des ondes de choc là, qui sont excitées dans le cas où la vitesse est plus grande que la vitesse critique. Une autre propriété importante des superfluides quand on essaye de les mettre en mouvement et notamment en rotation, c'est que les superfluides obéissent à une hydrodynamique, des équations hydrodynamiques, où leur vitesse est décrite par le gradient de la phase de la fonction d'onde. Donc si la vitesse, c'est le gradient de la phase, à ce moment-là, le rotationnel de la vitesse, c'est zéro, donc l'écoulement est irrotationnel. Et aussi, comme la vitesse, c'est le gradient de la phase, il y a une quantification de la circulation quand on regarde un écoulement sur un tour. Donc, par exemple, quand on regarde la circulation sur une boucle qui en sert quelques vortex ici. Et donc, par conséquent, en fait, la rotation ne peut se faire qu'en introduisant des défauts qui sont ces vortex où la densité va s'annuler et la circulation autour de l'un des défauts est quantifiée et prend une valeur élémentaire qui est le rapport de la constante de Planck et de la masse. Et donc, quand on fait tourner un superfluide, comme par exemple ici un gaz quantique, on crée un réseau de vortex qui s'aligne gentiment là, sur un réseau triangulaire qui s'appelle un réseau d'Abrikosov. Enfin, une chose intéressante là, qui a été développée depuis quelques années dans les condensats en particulier, c'est qu'on a une analogie entre la superfluidité de ces gaz quantiques et puis la supraconductivité dans les petits systèmes mésoscopiques où le système est suffisamment petit pour que les électrons ou les paires d'électrons se comportent de façon cohérente. Et donc ça a donné lieu à toute une série d'expériences où on essaye de reproduire des dispositifs de physique mésoscopique avec des condensats de Bose-Einstein. Dans cet exemple-là, qui est du groupe de Malcolm Bouchier, il y a un anneau à atomes avec deux petites barrières de potentiel qui reproduisent un petit peu l'équivalent d'un squid, mais avec des atomes froids, où le flux qui est dans les squids est remplacé par la circulation de la vitesse autour de cet anneau. Donc ce domaine, en quelque sorte, d'analogie entre les atomes froids dans des problèmes de transport et les électrons, et particulièrement les supraconducteurs, est appelé parfois l'atome tronique, de façon par analogie avec l'électronique. Donc, dans cet exposé, je vais m'attacher à regarder ce qui se passe pour les propriétés de superfluidité, donc de dynamique superfluide, dans deux géométries essentiellement, une géométrie d'anneaux, donc un petit peu comme celle-ci, mais sans les barrières, et puis dans des bulles. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire des bulles d'atomes. Ce que je vais décrire dans cet exposé, ça va se passer dans ce type de géométrie-là. Donc on va faire de la physique dans une bulle. Et ça, cette bulle, elle est obtenue en utilisant l'approximation adiabatique, qu'on a revue ce matin, c'est très bien, avec des atomes qui ont un spin non nul et qui sont placés dans un champ magnétique inhomogène et en présence d'un champ radiofréquence. Donc voilà, les ingrédients, c'est un champ magnétique inhomogène, un champ radiofréquence suffisamment intense pour appliquer l'approximation adiabatique et regarder les niveaux habillés. Et si on a ces deux ingrédients-là, on peut confiner les atomes sur les surfaces isomagnétiques du champ magnétique inhomogène. Donc, par exemple, si le champ magnétique inhomogène il résulte de deux bobines parcourues par des courants en sens opposé, on a un champ quadrupolaire sphérique avec des surfaces isomagnétiques qui sont des sphères écrasées d'un facteur 2 dans la verticale parce que le gradient y est deux fois plus fort, donc des ellipsoïdes. Et donc les atomes sont astreints à se déplacer sur cette ellipsoïde. Ils ont un confinement qui est assez fort sur la surface, mais par contre, ils sont libres de se déplacer partout sur la surface, modulo le fait que quand vous êtes sur Terre, il y a la gravité qui les ramène plutôt en bas de la bulle. Donc l'avantage de ces confinements, c'est que ça vous donne des surfaces très très lisses, et c'est pour ça qu'on les utilise. Parce que ça permet d'étudier les modes avec des très bons facteurs qualité, par exemple du nombre d'oscillations qu'on peut voir grâce à l'absence de rugosité dans ces potentiels. Alors j'explique un tout petit peu parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre certaines parties de l'exposé. Donc ici j'ai représenté les niveaux d'énergie des trois états de spin 0, moins 1, 0 et 1 de l'état fondamental F égale 1 du rubidium-87 qui est l'atome que j'utilise. Comme on a un champ magnétique qui est un quadrupôle sphérique, si je me place, par exemple, selon la direction X, en fait, le champ magnétique varie linéairement avec X. Donc, pour l'état M égale 0, l'énergie vaut 0 fois ce que vous voulez, donc ça reste égal à 0. Pour l'état M égale 1, il y a une croissance linéaire avec la position, puisque le champ lui-même croît avec la position, et l'état M égale moins 1, ça décroît. Bon, alors, de façon arbitraire, j'ai choisi un facteur géomagnétique positif. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est juste pour l'explication, c'est plus simple. Donc on a ces trois niveaux-là. Et ensuite, je rajoute un champ radiofréquence avec une certaine fréquence. Donc qu'est-ce qui va se passer ? À l'endroit dans l'espace où l'écart entre les niveaux Zeeman est égal à l'énergie d'un photon radiofréquence, il va y avoir une résonance. Et donc entre 1 et 0 d'une part, entre 0 et moins 1 d'autre part, donc on se place à des champs suffisamment faibles pour négliger les effets Zeeman du second temps. Donc dans mon champ quadrupolaire, dans le plan YZ, ça se passe à deux endroits, pour un X positif et pour un X négatif, mais il faut bien vous imaginer que dans l'espace, bien sûr, ça se passe en tous les points où la norme du champ mu fois la norme du champ B est égale à h bar fois oméga. Donc ça, c'est la surface résonante qui est cette ellipsoïde. Donc maintenant, pour décrire correctement ce problème, je vais me placer dans la base des états habillés, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder les niveaux de l'atome et puis les photons indépendamment, je vais regarder l'état m égale 1 avec n moins 1 photon RF, avec l'état 0 avec n photon RF et l'état moins 1 avec n plus 1 photon RF. Donc je décale cette courbe de potentiel ici et celle-ci là. Donc, si je fais ça, je vois apparaître, bien sûr, ici, un croisement de niveaux. C'est l'endroit où il y avait la résonance. Et si je rajoute un couplage radiofréquence, une certaine amplitude radiofréquence qui est couplée au spin, donc cette fréquence de Rabi, là, elle va être liée à l'amplitude du champ radiofréquence, à ce moment-là, j'ai une levée de dégénérescence au croisement et les états pertinents qu'il faut que je regarde, ce sont les états habillés, atomes plus champ. Donc je les appelle cette fois M' égale 1, M' égale moins 1, M' égale 0. Donc il y a un croisement évité. Essentiellement, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à notre ancien état M égale 1 quand on va par là, celui qui augmente, Mais quand je suis par là, par exemple, l'état M' égale 1, c'est essentiellement l'ancien état M égale moins 1. Et ici, j'ai une superposition entre les trois états 1, 0 et moins 1. Donc, ce qui est important de voir, c'est que l'écart entre cet état-là et puis l'état 0, c'est donné par la fréquence de Rabi, donc par l'amplitude du couplage. Et là, ce qu'on va comprendre, c'est que cet endroit où il y a la résonance, c'est là qu'on a un minimum de potentiel, et c'est pour ça que les atomes sont piégés dans cette bulle isomagnétique. Donc, ils sont là parce qu'il y a un minimum d'énergie pour cet état habillé-là. Donc, je remarque que pour l'état moins 1, là, au contraire, c'est un maximum d'énergie. Et ce qu'utilisent d'habitude les gens, c'est plutôt cet état-ci. Quand ils font du refroidissement par évaporation, on a les atomes qui sont piégés au fond du piège quadrupolaire, et puis on limite la hauteur du piège en utilisant la radiofréquence, de sorte que les atomes qui sont les plus énergétiques sortent pour être évaporés. Donc là, au lieu d'utiliser cet état-là, nous, on utilise celui-ci. Donc il est minimum aux endroits tels qu'on a la résonance, et ça, c'est un ellipsoïde d'équation x2 plus y2 plus 4z2 égale r0 carré, où r0, ce rayon-là, il est déterminé par l'endroit où c'est résonant. Donc il est déterminé par le choix de la fréquence radiofréquence et par le gradient. Donc l'endroit où c'est résonant, c'est proportionnel à oméga divisé par b'. Dans ce piège habillé, je peux quand même faire du refroidissement par évaporation avec une autre fréquence RF. Donc dans cet exemple-là, si j'utilise maintenant un autre champ RF dont la fréquence non, elle n'est pas proche de oméga, petit oméga, mais proche de la fréquence de Rabi grand oméga, donc cette fréquence de Rabi plus quelque chose, à ce moment-là, je peux limiter la profondeur du potentiel, et donc je fais de l'évaporation radialement, enfin dans l'épaisseur de la bulle, hein, comme ça, avec un couteau qui limite la profondeur de ce potentiel à delta si je choisis une fréquence grand oméga plus delta. Donc je vous fais tout de suite remarquer qu'à fréquence du couteau donné, si grand oméga est différent, ça donne une profondeur différente. Ça sera utile pour tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a quand on rajoute la gravité. Ce sont les niveaux équipotentiels de ce piège en forme de bulle, vu en coupe dans le plan XZ. Et donc la gravité amène les atomes vers le bas. Et les fréquences d'oscillation sont très différentes dans la direction verticale, là c'est dû au croisement évité, et dans les directions horizontales, parce que comme il n'y a pas d'autre confinement finalement dans cette direction que l'action de la gravité, dans ces axes-là, c'est juste un pendule pesant. Donc on a un pendule qui oscille parce que ce centre-là est à distance fixe, et donc on a des fréquences qui sont données essentiellement par racine de g sur R0, qui sont dans les dizaines de Hertz, alors que la fréquence radiale, elle peut aller, en fonction des paramètres, jusqu'à des kilohertz. Et c'est avec cette géométrie qu'on a fait toutes les études de mode collectif dans les gaz 2D. Et c'est comme ça qu'on obtient des gaz bidimensionnels en confinant très fort là. Donc, vu de dessus, in situ, ça donne ce genre d'image. Après temps de vol, si jamais on tourne, on peut aussi observer, par exemple, un réseau de vortex. Par ailleurs, j'ai un petit peu passé sous silence une propriété importante du couplage radiofréquence, c'est que c'est un couplage vectoriel. Donc j'ai fait comme si voilà, il y avait une surface résonante et tout était invariant sur cette surface résonante, mais ce n'est pas vrai, parce que le couplage grand oméga, il dépend de l'orientation relative du champ radiofréquence et du champ magnétique statique. Or, dans un potentiel quadrupolaire, notamment, dans un champ magnétique quadrupolaire, l'orientation du champ statique, elle bouge partout, puisqu'elle se tourne de là à là, puis comme ça. Donc partout dans l'espace, il y a des orientations différentes du champ B. Et donc ça veut dire que quand on choisit une certaine polarisation du champ radiofréquence, on n'a pas le même couplage partout. Si on choisit une polarisation qui est circulaire par rapport à l'axe vertical, à ce moment-là, on a un couplage qui est maximal en bas de la bulle et qui vaut zéro en haut, et qui en fait diminue linéairement avec la hauteur quand on parcourt cette bulle, et ça, on va l'utiliser, en tout cas, il faut l'avoir en tête. Et ça veut dire aussi qu'en fait, à cause du champ quadrupolaire qui prend toutes les orientations possibles sur l'ellipsoïde, il y a forcément au moins un endroit sur la bulle où le couplage radiofréquence est nul. Et comme on fait une approximation adiabatique celle-là, elle s'appuie sur le fait que les écarts entre niveaux sont non nuls. Il faut que le mouvement soit limité par rapport typiquement à l'écart entre niveaux. Mais si l'écart entre niveaux vaut zéro parce qu'on n'a pas de couplage, ça ne peut pas être adiabatique. Donc il faut éviter d'aller se balader par là. Sinon, les atomes vont sortir du potentiel à billets. Mais on peut aussi utiliser la polarisation du champ radiofréquence. Si jamais, au lieu d'utiliser une polarisation qui est invariante par rotation, comme sigma plus par rapport à l'axe Z, j'utilise une polarisation, par exemple, linéaire d'axe horizontal, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que des trous, je vais en avoir deux, un de chaque côté. Et le minimum du potentiel, il a une distance oméga de l'état zéro, ben plus grand oméga est faible et plus finalement le piège est profond. Donc les atomes sont un petit peu attirés vers ces trous. Heureusement, là, il y a la gravité qui les empêche d'y aller, mais quand même, ils sont un peu attirés vers les trous. Donc si vous prenez une polarisation linéaire horizontale, ils vont être un petit peu attirés vers les deux trous qu'il va y avoir selon l'axe de la polarisation. Donc ça va un petit peu ouvrir le piège dans cet axe-là et ça va le rendre anisotrope. Donc il va y avoir une fréquence d'oscillation en bas de la bulle qui va être plus faible dans la direction où se trouvent les trous que dans la direction orthogonale. Et en jouant avec la polarisation de la radiofréquence, en fait, on peut contrôler parfaitement les éventuelles anisotropies qu'il peut y avoir tout au long de cette bulle et en induire à volonté et choisir l'axe dans lequel on met cette anisotropie en changeant la phase de la polarisation. Donc ça va jouer un rôle important dans les expériences que je vais décrire. Donc en particulier... Le fait qu'on puisse modifier de façon dynamique la géométrie dans cette bulle, c'est quelque chose qu'on a utilisé dans le passé pour étudier les modes collectifs. Et ça, c'est juste un petit diapo pour vous montrer qu'on a analysé les premiers modes collectifs d'un gaz bidimensionnel dans ce piège en excitant de façon un peu contrôlée le gaz à l'intérieur et en utilisant une technique d'analyse des images par composante principale. On voit apparaître les premiers modes de Bogoliubov, donc les oscillations selon les deux axes, X et Y, le mode ciseau qui est ici, un mode qui est plutôt du genre monopôle, mais là c'était un gaz asymétrique, et puis un mode qui est plutôt apparenté à un quadrupôle. Donc le fait que cette sphère-là nous donne un potentiel très lisse et qu'on puisse le modifier dynamiquement, ça rend ce système assez idéal pour les études de modes collectifs. Donc je vais passer à la première partie sur l'étude des anneaux maintenant et puis la démonstration d'un courant permanent dans un gaz quantique annulaire. Donc ça, c'est de la manip, ça, c'est des calculs théoriques. Donc déjà, un petit rappel sur ce qu'on attend. Comme je vous l'ai dit, la vitesse du fluide est liée au gradient de la phase. Donc si on regarde la circulation de la vitesse sur une boucle fermée, on s'aperçoit que cette circulation doit être quantifiée en unité de H sur M, donc H, la constante de Planck, M, la masse de l'atome. Et donc, par exemple, si on a des vortex dans le gaz, cette circulation quantifiée, ça sera le nombre de vortex qui sont insérés dans la boucle. Si on a cette fois un gaz annulaire, on peut, contrairement au cas où on avait un réseau de vortex où chaque vortex avait une charge 1, on peut imaginer que si on a les atomes qui sont tenus dans un anneau, cette fois-ci, on va pouvoir avoir une circulation qui vaut plus que 1 pour l'ensemble de la boucle. Et si jamais on n'a pas de vortex à l'intérieur, hein, si on a un bel écoulement fluide sans défaut, à ce moment-là, la circulation de la vitesse sur ce tour-là va être égale à L fois H sur M. Et la vitesse elle-même, du coup, si L est fixée, donc l'enroulement, voilà, à ce moment-là, sa vitesse est égale à un certain nombre de fois une vitesse élémentaire, h bar sur mr0, qui va dépendre du rayon de l'anneau. Et le moment cinétique va être L fois h bar. Donc la rotation le long de cet anneau, soit en termes de vitesse linéaire, soit en termes de vitesse de rotation, va être quantifiée avec cette rotation élémentaire qui va être h bar sur mr0 carré et qui dépend du rayon de l'anneau. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'observer ces rotations élémentaires, parce qu'il peut y avoir des rotations à oméga 0, 2 oméga 0, 3 oméga 0, etc. Mais déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est si on essaye de placer le gaz dans un référentiel en rotation à la fréquence oméga, est-ce qu'il va tourner ou est-ce qu'il ne va pas tourner ? Donc il y a un peu deux réponses à cette question. Il y a quel est son état fondamental dans ce référentiel tournant ? Et puis, physiquement, est-ce qu'il va tourner si on s'amuse à faire ça ? Donc ça, c'est copyright Jean d'Alibarcourt 2016. Donc quand on place les atomes dans un référentiel en rotation à la fréquence oméga, si jamais, évidemment, oméga égale 0, bah, l'état fondamental, c'est d'avoir une phase uniforme partout, pas de rotation. Mais si on tourne à la fréquence qui correspond à oméga 0, à ce moment-là, l'état fondamental, c'est d'avoir un enroulement L égale 1. Et plus, en fait, on augmente la fréquence de rotation, plus le nombre d'enroulements va augmenter. Donc, c'est assez simple de se dire quel est l'état fondamental en référentiel en rotation si on est exactement à n fois oméga 0. Mais maintenant, si on est un petit peu entre deux, eh ben, en fait, la réponse, c'est l'état fondamental, c'est celui qui est le plus proche du n oméga 0. C'est le oméga 0, le n oméga 0 le plus proche du oméga rotation qu'on impose. Donc, si, par exemple, on commence avec une vitesse nulle et puis on augmente oméga 0, à partir de ce moment-là où on a atteint 1/2 d'oméga 0, l'état fondamental, c'est n égale 1. Donc, dans la vraie vie, c'est plutôt ce petit dessin-là, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'hystérésis. Il faut aller plus loin que 1/2 d'oméga 0 pour ensuite pouvoir trouver le bon état fondamental qui devrait être maintenant un enroulement, enfin n égale 1 ou L égale 1. Et ça, on va voir dans un instant pourquoi. Mais a priori, l'état fondamental, c'est toujours, on choisit celui qui est le plus proche des deux, et quand on est exactement entre deux, ça pourrait être une superposition. Mais maintenant, imaginons qu'on place le gaz dans un référentiel en rotation à la fréquence oméga 0. Je ne dis pas comment on fait ça, mais imaginons qu'on le fasse en ayant un petit speckle très 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 fin, et puis on fait tourner ce speckle, ce qui définit un référentiel en rotation à oméga 0. Est-ce que le superfluide va tourner ou est-ce qu'il ne va pas tourner ? Le problème, c'est qu'il y a quand même un truc qui s'appelle la vitesse critique, et si vous faites tourner des tout petits défauts dans ce superfluide à l'arrêt, la vitesse linéaire de ces petits défauts sur le gaz, elle vaut oméga 0 fois R0, et avec des paramètres typiques des expériences, ce truc-là est très petit par rapport à la vitesse critique, ou très petit par rapport à la vitesse du son. Donc, si vous faites juste ça, vous avez un gaz piégé dans un anneau et vous le perturbez à peine, mais avec la bonne valeur de la fréquence de rotation, en fait, il ne va pas réussir à se mettre dans le bon état fondamental à oméga 0 si vous l'aidez pas un peu. Il faut qu'on trouve le chemin pour aller trouver l'état fondamental. Donc, il va falloir franchir cette barrière de potentiel en ouvrant des canaux dynamiques pour que un vortex puisse rentrer dans le système. Donc là, on n'arrive pas à aller dans oméga 0 directement si on n'aide pas un petit peu. Et pour aider, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on crée un endroit où des vortex peuvent rentrer à l'intérieur de l'anneau et faire changer la circulation de L égale 0 à L égale 1, L égale 2, etc. Donc ça, c'est le principe de la touillette qui est utilisée par exemple dans le groupe de Gretchen Campbell au NIST. Ça, c'est une image de chez elle. Donc à un endroit donné, on baisse beaucoup le potentiel chimique, on baisse beaucoup la densité, et cette fois-ci, on peut faire rentrer des vortex par ce petit trou-là. Et quand on referme ensuite, qu'on enlève la touillette, l'état dans lequel va se mettre le gaz une fois qu'il est reconnecté, c'est le bon état par rapport à l'état fondamental qu'on vise. Donc si on tourne à une fréquence, par exemple 2 oméga 0, mais qu'on a aidé ici en mettant un petit trou, et ensuite on enlève gentiment la touillette, on va effectivement préparer L égale 2, etc. Donc ça a été aussi montré par les simulations numériques où en fait il y a une annihilation d'un vortex qui vient de l'extérieur, d'un antivortex qui vient de l'intérieur, et c'est ce mécanisme-là qui augmente la circulation d'une unité. Donc il faut tourner cette déformation pour imposer le référentiel tournant à oméga. Ensuite, la question suivante qui se pose, c'est si on a créé un état L non nul, il faut pouvoir mesurer la valeur de ce L. Parce que si vous regardez juste la densité de l'anneau in situ, bah, ça ne se voit pas tellement que ça tourne. En fait, si vous aviez des mesures absolument avec des précisions infinies, il y a un tout petit effet de force centrifuge qui fait que quand il tourne, l'anneau il est très, très, très légèrement plus grand que quand il ne tourne pas dans un piège de raideur donné. Mais bon, en fait, c'est à peu près impossible à voir. Donc, il va falloir trouver une autre technique pour mesurer que ça tourne à égal 1, L égale 2, etc. Donc, ça, c'est celle qui a été démontrée ici dans le groupe de Jean. C'est une méthode interférométrique. Parce que qu'est-ce que c'est que ce L ? C'est un enroulement de phase. Donc, en fait, il y a un gradient de phase le long de l'anneau. Donc, si on est capable de détecter ce gradient de phase, on peut détecter qu'il y a une circulation. Donc, l'idée, c'est de faire interférer le gradient de phase de l'anneau principal avec une référence de phase. Et dans une expérience d'interférométrie, on voit des franges qui sont de forme spirale s'il y a un enroulement non nul. Et puis, on peut comme ça mesurer la valeur de l'enroulement. Il y a une autre technique qui est plus facile à mettre en œuvre et qu'on a utilisée, nous, qui est de simplement faire un temps de vol. Alors, elle ne donne pas le signe de L, mais elle donne en tout cas sa valeur absolue. Et comme en général, on sait dans quel sens on a tourné, en fait, on connaît le signe aussi. Ça consiste à juste lâcher le gaz qui est en train de tourner. Et en fait, quand on coupe le piège et qu'on laisse le gaz s'étendre, ce qu'on observe, c'est essentiellement la distribution de vitesse, donc la transformée de Fourier de la fonction d'onde initiale. Et quand on a une fonction d'onde initiale qui est à peu près exponentielle ILθ, sa transformée de Fourier, c'est des fonctions de Bessel. Et donc, ce qu'on observe, c'est des fonctions de Bessel avec l'indice qui nous donne la valeur de l'enroulement. Donc, si c'est L égale 0, ben, il y a un pic très étroit au centre. Mais L égale 1, L égale 2, L égale 3, on a un trou au centre avec un rayon qui nous donne la norme, enfin la valeur absolue de l'enroulement. Donc, ça, c'est des images qui viennent du groupe de Zoran Alzibabic à Cambridge. Et donc, on peut discriminer L égale 0, 1, 2, 3 de cette façon-là. Et donc, c'est cette technique qu'on a utilisée. Donc, maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on fait un anneau à partir de notre bulle, parce que je vous ai parlé des bulles, mais je ne vous ai pas encore montré d'anneau. Bah, l'intersection d'une sphère avec un plan, c'est un cercle. Hein, donc c'est essentiellement ça l'idée. On a cette bulle sur laquelle les atomes sont confinés. On ajoute deux faisceaux laser qui permettent de confiner très fort les atomes entre les deux faisceaux laser, donc répulsifs. Et donc, vu de dessus, quand on fait ça, bah, on peut avoir un guide annulaire pour les atomes. Alors, ce qui est assez chouette avec cette réalisation, c'est qu'on peut contrôler de façon indépendante le potentiel selon Z et selon R, et en particulier, on peut changer le rayon de l'anneau, on peut même le changer dynamiquement, puisque c'est essentiellement la fréquence du champ radiofréquence, ou le gradient, qui détermine le rayon de la bulle. Donc, on peut faire à la fois des grands anneaux et des petits anneaux. Alors, pour avoir quelque chose de bien cohérent sur toute la longueur de l'anneau, c'est plus facile avec des petits anneaux. Donc, je vais plutôt vous montrer des petits anneaux. Mais bon, on pourrait, dans des grands anneaux, plutôt les utiliser pour préparer à un endroit donné un petit nuage et puis les faire tourner dans des manipes plus interférométriques, comme c'est fait chez Wolfram Klitzing, par exemple, en Crète. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, en fait, on a le contrôle de cette polarisation RF qui nous permet, si on veut, de déformer cet anneau. Donc on peut, par exemple, en ayant une polarisation pas tout à fait circulaire, accumuler davantage les atomes en deux points selon un axe qu'on peut choisir. Donc, on va mettre les atomes en rotation dans cet anneau et on va regarder deux méthodes pour ça. Donc, la première, c'est cette méthode de la touillette où on focalise un laser dans la direction perpendiculaire à un point qui est contrôlé par en fait, deux acoustos optiques pour changer l'angle. Et puis, on tourne et on voit si on peut créer une excitation ou pas. Et en fait, dans notre cas, avec les rayons qu'on a, 23 microns, je trouvais que c'était déjà assez petit, mais en fait, ça fait des fréquences critiques avec la masse du rubidium qui est assez grande, qui sont très petites. Donc, le oméga 0 dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 0,22 Hz. Donc, un tour, c'est 5 secondes quand même. Et le oméga 0 sur 2, donc c'est 0,11 Hz. Donc, pour voir un petit peu mieux si on a une circulation ou pas, on a mis au point une technique un petit peu de zoom de la manip de temps de vol qui consiste, avant de relâcher les atomes, à les ramener d'abord en bas de la bulle en décalant la bulle. Donc, si on ne fait pas ça et qu'on a préparé une circulation, qu'on fait un temps de vol, on observe effectivement un nuage avec un trou, donc qui montre qu'ils sont bien en train de tourner. Mais c'est un trou assez petit. Et si on ramène les atomes en bas de la bulle avant de relâcher, en fait, le trou qu'on a après temps de vol est beaucoup plus grand, donc ça nous permet de zoomer et notamment d'aller détecter des circulations toutes petites qui ne sont pas accessibles avec cette méthode directe. Donc voilà le résultat pour essayer de voir si effectivement on trouve le seuil à 0,11 Hz pour la circulation. Donc si on tourne plus à des fréquences plus faibles que le 0,11 Hz ou 0, oui c'est ça, à peu près 0,11, on ne voit pas du tout de trou et on a des temps de vol, là je ne sais pas si j'en ai un exemple ici, mais avec un centre très 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 pointu, qui est celui qui correspond à la fonction de Bessel J0. Et si on augmente la fréquence de rotation, on a des trous qui sont plus grands, avec des seuils alors qui ne sont pas évidents à retrouver dans ces données-là, mais on voit en tout cas un comportement qui est attendu sur la taille du trou en fonction de la fréquence d'excitation, donc de plus en plus grand quand on tourne plus vite. Donc ça, c'est des petites circulations, 1, 2, quelque chose comme ça, avec une circulation minimale qui correspond à peu près à oméga 0 sur 2. Maintenant, cette technique de la touillette, c'est quelque chose où on ajoute un laser externe à notre manip, et je vous ai montré qu'on était capable de déformer l'anneau. Donc, ce qu'on a voulu explorer, c'est est-ce que c'est possible de créer de la circulation en fait, en utilisant la technique de déformation de l'anneau lui-même. Donc l'idée, c'est d'utiliser la polarisation radiofréquence, de mettre une petite composante elliptique et de faire tourner l'axe de cette ellipticité au cours du temps pour réussir à faire rentrer des vortex en fait, par les endroits où la densité est un peu plus faible et créer des circulations non nulles comme ça. Donc essentiellement, voilà ce qu'on a au cours du temps. On tourne pendant à peu près 5 tours et on voit ce qui se passe. On a aussi mis au point une autre technique qu'on n'a pas utilisée sur les atomes mais qu'on a étudiée à la fois au plan optique et puis avec des simulations numériques qui consiste à faire une impression d'un enroulement de lumière, impression de phase. Et en fait, cette technique, elle a été mise en œuvre en Australie dans le groupe de Alina Rubinstein-Dunlop et ça marche aussi pour créer des circulations. Donc voilà, ça c'est un exemple de temps de vol avec pas de circulation, donc c'est vraiment très, très petit, hein, c'est plus petit que ce que vous avez d'habitude pour un condensat dans un piège connecté. Et puis quand on fait tourner, on voit apparaître en effet un trou, et quand on augmente la fréquence de rotation, en fait ce trou augmente de plus en plus. Donc ça c'est la technique de la déformation quadrupolaire, donc ça marche aussi. En fait ça crée des circulations plus importantes, c'est un peu plus difficile de contrôler le nombre de circulations qu'avec une touillette. Et la durée de vie de ces courants, une fois qu'ils sont produits dans l'anneau, c'est de quelques secondes. Donc c'est vraiment l'idée du courant permanent, elle est bien vérifiée dans notre expérience. Alors maintenant, pour continuer sur cette idée de création de L assez important, on peut se poser la question de ce qui se passe quand on tourne vraiment vite. Parce que à partir du moment où dans notre anneau, dans notre bulle, on tourne vraiment vite, est-ce qu'on a vraiment besoin des deux lasers et du piège annulaire pour observer des écoulements circulaires dans notre bulle? Eh bien, on va voir que ce n'est pas obligé et qu'on peut se passer du confinement vertical et de l'anneau lui-même. Donc, juste un petit rappel de contexte pourquoi on avait relancé cette expérience-là. Donc, toujours inspiré par les travaux de Jean. Quand on se met dans un référentiel en rotation, l'hamiltonien dans le référentiel en rotation, il est modifié et on a le terme moins oméga Lz, où oméga est la fréquence de rotation, Lz c'est le moment cinétique, la projection du moment cinétique selon Z. Et donc, quand on fait tourner, on a de plus en plus de vortex, parce que les vortex ils font augmenter Lz et ça fait baisser l'énergie grâce au terme moins oméga Lz, même si ça coûte de l'énergie cinétique. Finalement, si on tourne vite, on a intérêt à faire rentrer beaucoup de vortex dans le gaz. Et en fait, cet hamiltonien du gaz en rotation, Alors, si je prends en première approximation, il n'y a pas d'interaction entre atomes, si je regarde ça, on peut le réécrire sous une forme qui fait apparaître un champ de jauge. L'hamiltonien qui était P2 sur 2m plus V2R et puis moins oméga LZ, c'est la même chose que cet hamiltonien qui est analogue à celui d'une particule chargée en présence d'un champ magnétique qui serait donné par le rotationnel du potentiel vecteur. Du moment qu'on fait une analogie, qu'on dit que le potentiel vecteur, c'est comme le vecteur rotation. Et modulo quand même un terme supplémentaire qui est le potentiel centrifuge. Quand on fait ce changement de référentiel, il faut modifier le piège dans lequel sont les atomes en mettant la force centrifuge, donc qui donne lieu à ce potentiel centrifuge. Donc le potentiel effectif dans lequel se trouvent les atomes est maintenant le potentiel de départ moins 1,5 de m oméga 2 R2. Dans un piège harmonique, d'ailleurs, celui-là aussi, il est en oméga carré, donc ça renormalise la fréquence d'oscillation dans un piège harmonique. Bon, dans un piège plus général, ça rajoute juste ce terme-là. Donc, en fait, on a cette analogie, et ça a donné lieu à une recherche d'effets du type effet Hall quantique avec des atomes froids, parce que si je regarde, mon gaz, il est essentiellement bidimensionnel, la dimension verticale, elle ne joue pas de rôle dans ce problème-là, quand les atomes sont au fond de la bulle. Je peux le décrire comme ça un potentiel qui est presque harmonique, avec un potentiel harmonique bidimensionnel, donc une fréquence d'oscillation égale selon x et selon y. Donc je peux prendre comme axe propre x et y, mais je peux aussi dire que comme il est invariant pour rotation, les bons nombres quantiques, c'est le moment cinétique et puis le niveau d'excitation. Donc si je fais ça, je décris les états propres comme aussi des états propres du moment cinétique. Donc le fondamental, c'est L égale 0, puis j'ai deux états excités avec L égale 1 et puis M plus ou moins 1, trois états doublement excités, L égale 2, M égale moins 2, 0 et 2, etc., etc. Et donc le terme moins oméga LZ, quand on passe en référentiel tournant, c'est aussi un terme pour lequel ces états-là sont des états propres. Le moins oméga LZ, il va faire descendre les M positifs, là, il va faire monter les M négatifs. Donc là, c'était à oméga égale 0, mais maintenant, si je suis à oméga non nul, ben, ces niveaux-là descendent, les autres montent de plus en plus, de sorte qu'en fait, si je tourne à une fréquence qui est de l'ordre de la fréquence de piégeage, ben, j'ai tout un tas d'états qui sont dégénérés, c'est le niveau de Landau le plus bas, LLL, ça veut dire lowest Landau level. Et la physique de l'effet Hall quantique, ça se passe dans cet état de Landau le plus bas. Et l'analogie ici, c'est que le champ magnétique, il est joué par cet écart entre les deux niveaux. Donc, il est joué par la vitesse de rotation. Donc ça a motivé des manips d'essayer de voir ces effets-là avec les atomes froids, où on a de plus en plus de vortex. Il faut essayer de tourner à la vitesse de confinement, ce qui n'est pas évident, puis que pose directement un problème technique grave. C'est que si on tourne pile à la vitesse qui correspond à la fréquence de piégeage, ben, y a plus de piège. D'ailleurs, ça se voit si vous faites des images de vortex après temps de vol et vous tournez de plus en plus vite, ben, vous voyez que votre gaz il s'étend de plus en plus parce qu'il est de moins en moins confiné. Donc ça, c'est vu de dessus, ça, c'est vu de côté. Ben, on a ce problème de la force centrifuge. Et si je tourne à oméga R, ben, il n'y a plus de piège. Donc, comment est-ce qu'on peut contourner ce problème? Donc ça a été résolu chez Eric Cornell et Jean dans les années 2004-2005. Là. L'idée, c'est de ne pas avoir un potentiel qui soit uniquement harmonique, mais d'avoir un petit terme quartique, de sorte que quand on est à la fréquence de piégeage, on a bien un fond plat qui est bien pour avoir les niveaux de Landau, mais il y a quand même le R4 qui nous sauve et qui continue à piéger les atomes. Donc ça, c'est une image du papier de la thèse de Vincent Bretin où il tourne exactement à oméga R. Mais maintenant qu'on a ce terme R4, en fait, on peut aller s'aventurer même un peu plus loin. Et on peut tourner aussi plus vite que oméga R. Donc plus vite que oméga R, ça serait un potentiel harmonique répulsif au centre. Mais le oméga R nous sauve. Donc ça veut dire qu'il y a un maximum de potentiel au centre et à un rayon donné, il y a un minimum de potentiel. Donc on s'attend à en fait, avoir un gaz qui va devenir annulaire. Et ça se voit un tout petit peu sur cette image qui est en fait juste au-dessus de oméga R. Si vous regardez bien, là, il y a des vortex, mais au centre, il y a un peu moins d'atomes. Donc ça, c'est déjà une illustration du fait qu'on est allé plus loin et qu'il y a une déformation de la densité qui est liée à ça. Mais maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut complètement vider le centre et est-ce qu'on peut avoir un écoulement de forme annulaire avec une vitesse de rotation qui est nettement plus grande que la fréquence de rotation. Donc si on va dans cette direction-là, en fait, il y a plusieurs étapes possibles avec un diagramme des phases là, qui a été exploré par pas mal de gens, dont Gordon Baim, Alexander Fetter et Tsubota et d'autres, Weder. Quand vous tournez de plus en plus vite dans un potentiel harmonique plus quartique, voilà ce qu'on doit avoir. Donc à fréquence de rotation faible, un réseau de vortex, comme d'habitude. Puis, quand on tourne plus vite que la fréquence de piégeage, à ce moment-là, doit apparaître au centre une déplétion totale avec pas du tout d'atomes. Donc ça correspond à cette zone-là où on a toujours des vortex simplement chargés, mais avec un trou au centre. Et si vous tournez de plus en plus vite et de plus en plus vite, même tous les vortex doivent se retrouver au milieu, en quelque sorte. Et on a ce qu'on appelle un vortex géant, où en fait, la dimensionnalité de l'écoulement est transversalement, c'est de la dimension 1. On n'a pas de degré de liberté, parce qu'il n'y a même pas la place de mettre un vortex en fait, dans cet anneau-là. Et ça, c'est ce régime-là de quantification multiple, où il y a un enroulement très grand, mais aucun vortex. Donc, on est allé explorer avec notre gaz au fond de la bulle des rotations rapides pour essayer d'accéder déjà à cette étape-là, puis de voir si ce vortex géant était hors de portée ou pas. Donc, les manips se font dans la bulle. Avec la gravité, il n'y a plus de confinement vertical avec le laser. Au bas de la bulle, si on tourne pas trop vite, on a un réseau de vortex. Le potentiel centrifuge expulse les atomes du centre. Donc, si on tourne de plus en plus vite, à un certain moment, on doit avoir cette situation-là avec un trou au centre. Donc, le point clé, ça a été de le réaliser, d'exciter très fortement le gaz et de faire une excitation un peu en deux étapes. Donc, on tourne à une fréquence qui est en fait en dessous de la fréquence de piégeage qui vaut 34 Hz, mais avec une déformation assez grande. Donc, on passe par des régimes intermédiaires très excités où vous voyez des galaxies qui se développent à temps court. Et on attend longtemps. Quand je dis on attend longtemps, là, c'est des secondes. Hein, d'accord ? Donc, là, ici, on a à 20 secondes dans le piège. Et on voit que se forme, en effet, au cours du temps, un écoulement avec quelque chose qui ressemble à un trou au centre. Et ça reste pendant très longtemps, donc dans notre piège, pendant jusqu'à une minute. Alors, pour avoir ça, il faut travailler sur la polarisation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir un potentiel qui ne soit pas invariant par rotation. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que le contrôle des polarisations dans le piège est absolument crucial. Donc, dans les images que je vous ai montrées, ce n'est pas tout à fait zéro au milieu. Il y a encore des atomes qui sont au centre. Donc, il faut procéder à une étape supplémentaire pour réussir à les vider complètement. Et ce qu'on fait, c'est qu'au bout d'à peu près les 20 secondes en question, on fait de l'évaporation forcée. Donc, ce petit couteau que je vous ai montré au début, là, on descend encore sa fréquence. Donc, la fréquence de Rabi, elle vaut 50 kHz. Donc ici, on est 8 kHz au-dessus du minimum, alors que là, on était à 15 kHz au-dessus. Et quand on fait ça, en fait, la rotation s'accélère et le centre est complètement vidé. De sorte que si maintenant je fais le même graphe en fonction du rayon, il n'y a rien au centre. Ça, c'est le pic des atomes. Et là, à nouveau, il n'y a rien. Donc c'est cette image-là. Donc on a une accélération de la rotation et cette accélération, elle est liée à l'effet du couteau. Et c'est très net sur ces images-là, où en fait le temps s'écoule vers la gauche, puisque c'est le nombre d'atomes en abscisse, et puis ici la fréquence de rotation, et ici la largeur du nuage en quelque sorte. Donc vous voyez que la fréquence de rotation, au fur et à mesure qu'on enlève des atomes, elle augmente, donc il y a une accélération, et ça c'est le seuil au-delà duquel on forme le trou. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un vrai trou au centre. Donc, le moment cinétique augmente pendant l'évaporation. d'où ça vient. Alors, je vous remets mon petit dessin de tout à l'heure et je vous rappelle que la fréquence de Rabi, elle est 0 en haut et elle est maximale en bas et elle décroît avec Z. Donc, comme les atomes sont sur la bulle, elle décroît avec Z et puis elle dépend aussi du rayon en quelque sorte. Donc, un rayon nul, la fréquence de Rabi est la plus grande possible. Si le rayon augmente, la fréquence de Rabi est plus petite. Or, quand la fréquence de Rabi est grande, le couteau conduit à une certaine profondeur. Mais quand la fréquence de Rabi est plus petite, avec le même couteau, j'ai une profondeur plus grande. Autrement dit, je vais évaporer plus les atomes à l'endroit où la fréquence de Rabi est plus grande, donc au fond, et moins à l'endroit où la fréquence de Rabi est plus petite, donc à grand rayon. Donc plus on est au centre et mieux ça évapore. Donc en gros, on est en train de creuser le centre et ça participe à enlever davantage du piège les atomes qui ont un moment cinétique le plus petit. Et ça accélère le nuage et c'est comme ça qu'on peut à la fin avoir ce genre d'image. Donc maintenant, à quelle vitesse il tourne là-dedans ? Ça on peut le savoir de deux façons. Soit on regarde juste la densité in situ, on connaît le piège et donc on est en train de déduire la valeur de oméga qui donne le potentiel centrifuge qui correspond à ce minimum de densité. Ou alors on fait un temps de vol et on regarde à quelle vitesse le nuage s'étend et l'énergie elle est essentiellement cinétique due à la fréquence de rotation, donc ça nous donne aussi la même réponse. Et les deux réponses concordent et on trouve qu'on est à des fréquences de rotation qui sont un peu au-dessus de la fréquence radiale, pas beaucoup au-dessus, mais quand même suffisamment pour avoir un trou. Et si je transforme cette vitesse de rotation en vitesse linéaire moyenne des atomes, je trouve que ça fait 7,4 mm par seconde. Donc ça pourrait paraître faible, parce que c'est quelques millimètres par seconde. Mais maintenant, si je le compare à la vitesse du son dans le gaz en tenant compte du potentiel chimique dans cette géométrie-là, je trouve que c'est à peu près 18 fois la vitesse du son. Donc, ils vont peut-être pas vite, mais ils vont quand même à 18 fois la vitesse du son. Donc là, on a une situation où notre fluide est très nettement supersonique. Donc, il faut s'imaginer qu'on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les voir, mais en principe, à température très faible, là-dedans, il doit y avoir un réseau de vortex et l'ensemble tourne à 18 fois la vitesse du son. Donc maintenant, on a aussi fait des vérifications pour être sûr que ce n'est pas juste des atomes thermiques qui tournent en rond. Alors, le profil de densité qu'on a pour ces atomes ne correspond pas du tout à ce qu'on attendrait pour des atomes thermiques. Ça colle beaucoup mieux avec des distributions type Thomas Fermi. Et puis l'autre chose qu'on a explorée, c'est si on a ces atomes qui sont bien cohérents, il doit avoir des modes collectifs. Donc on a été regarder le plus simple des modes collectifs, et c'est le mode quadrupolaire, et qui est assez naturel quand on fait des atomes en rotation, parce que c'est quelque chose qu'on utilise même avant qu'il y ait un trou pour mesurer la fréquence de rotation du gaz. En effet, il y a ce mode quadrupolaire qui décrit... Soit vous le regardez dans un condensat qui ne tourne pas, donc ça peut décrire un mouvement de déformation comme ça, ou le même à 45 degrés, ou alors je peux le décrire comme étant un mouvement de déformation elliptique qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc, quand il n'y a pas de rotation, ces deux descriptions-là sont équivalentes parce que les deux modes sont à la même fréquence. Mais quand il y a une rotation, il faut utiliser la description de la déformation elliptique qui tourne parce que du coup, ils sont non dégénérés. Et la déformation elliptique qui tourne dans un sens, elle est augmentée, dans l'autre sens, elle est diminuée. Et en fait, la différence de fréquence entre ces deux modes, c'est justement deux fois la fréquence de rotation. Et donc ça peut nous permettre, par spectroscopie d'excitation de ces deux modes, de déterminer la fréquence de rotation. Donc, zéro rotation, la fréquence d'excitation zéro, c'est ici. Vous voyez, on a un qui à une fréquence qui va... En fait, les fréquences négatives, ça correspond à une excitation dans le sens contraire de l'écoulement, donc qui se rapproche de la fréquence nulle, c'est le oméga moins. Et puis l'autre qui tourne plus vite qu'en l'absence de rotation, et donc qui va dans le sens de l'écoulement. Et en fait, ce mode de déformation quadrupolaire qui existe dans le gaz connecté, qui est bien connu, il existe aussi pour notre anneau dynamique, où on peut exciter une déformation quadrupolaire. Ça, c'est quand c'est pas résonant, c'est comme ça. Quand c'est résonant, c'est comme ça. Et ça avait été étudié dans les années 2006 par Cozzini et Stringari, qui avaient fait des prédictions sur ce spectre. Donc, on regarde ce que ça donne sur notre gaz. Alors là, vous regardez un petit, je ne sais pas si vous voyez les échelles de fréquence, mais bon, le mode oméga moins et oméga plus, il y en a un qui est vers, on va dire, moins 5 Hz, et puis il y a une bonne largeur, là, je ne sais pas, une dizaine de Hz. L'autre qui est autour de 30 et quelques. Ça, c'est la même chose quand on a notre anneau dynamique. Et là, ici, ça va, mon échelle elle va de moins 3 Hz à 3 Hz. Donc la largeur de cette excitation, là, elle est, en fait, elle est limitée par le temps que je mets à exciter le nuage, donc elle est peut-être plus fine que ça, mais ici, j'excite pendant une seconde. Donc, en fait, c'est extrêmement fin, il y a un très, très bon facteur qualité de ces modes-là. La largeur est extrêmement fine. Donc, on va se concentrer sur ce mode oméga- et regarder comment il change en fréquence quand on tourne de plus en plus vite et quand le trou se forme. Donc, il y a des prédictions... On peut faire des prédictions théoriques par la méthode des moments en utilisant la technique qui avait été développée dans ce papier de Cozzini. Et on peut regarder l'évolution. Alors, nos deux modes d'intérêt, c'est les points bleus et les points rouges. Donc, les points bleus et les points rouges. Alors là, ce que j'ai représenté, c'est la fréquence à laquelle il faut exciter le nuage pour être résonant. Donc, par rapport en fait, à la fréquence du mode elle-même, c'est deux fois plus petit. Donc, ce que vous voyez, c'est que quand ça ne tourne pas, c'est à 1 sur racine de 2 de la fréquence du piège et moins 1 sur racine de 2 que la fréquence du piège. Quand on tourne de plus en plus vite, cette fréquence ici augmente, celle-là, elle se rapproche de 0, comme je vous l'ai montré. Et ces points-là un peu compliqués, ça correspond au moment où le trou se forme. Mais de toute façon, ce que montrent les calculs, c'est que bon, la fréquence haute, elle vit sa vie, là, mais que la fréquence basse, elle doit faire demi-tour, en quelque sorte. Elle traverse jamais cette zone-là, c'est-à-dire qu'elle est toujours excitée dans le sens contraire de la propagation du gaz. Elle est toujours contre-propageante au fluide, au mouvement du fluide. Alors, on a fait la manip, et voilà ce qu'on trouve comme spectre de ce mode oméga moins 2. Ça, c'est en dessous de la fréquence de rotation, donc le 0, il est là, d'accord. Et puis là, on tourne de plus en plus vite. Et ce qu'on voit, c'est sans ambiguïté, c'est que la fréquence de ce mode, elle est du mauvais côté. Donc, elle est du côté où, pour l'exciter, il faut tourner dans le sens du fluide et pas dans le sens contraire du fluide. Et ça, ce n'est pas attendu par cette théorie-là. Et à ce jour, je n'ai pas d'explication à vous donner pour pourquoi c'est comme ça. Mais on peut le vérifier aussi par une méthode, non pas résonante, mais de regarder dans quel sens tourne le gaz après l'avoir excité, donc en regardant vraiment son évolution. Et ça confirme... Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sens de rotation. On peut se tromper un tout petit peu sur la valeur de la fréquence, mais pas sur le sens. Et ça tourne dans le sens du fluide, dans le sens de l'écoulement du fluide, et pas dans le sens contraire. Donc là, il y a une vraie question qui est ouverte sur pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc la dernière question qu'on s'est posée, c'est bon, OK, on a manifestement atteint le régime anodynamique avec des vortex simplement chargés et un trou au centre. Donc, par rapport à nos données expérimentales, on a fait une simulation numérique et en fait, on est à peu près dans cette zone-là avec nos vitesses de rotation, avec, disons, environ 300 vortex, entre guillemets, donc, mais sans, à densité nulle à l'intérieur et puis 240 dans l'épaisseur de l'anneau, donc avec des valeurs du moment cinétique très élevées. Hein. Mais ce n'est pas un vortex géant, parce que le vortex géant, ça voudrait dire que tous ces vortex-là ont migré vers l'intérieur. Et en fait, ça reste quelque chose qui demanderait d'avoir beaucoup, beaucoup moins d'atomes pour pouvoir être réalisé. Donc, pour le moment, avec notre expérience, on est dans ce régime-là, mais on a vérifié qu'on pouvait atteindre cet état-là avec des écoulements très, très nettement au-dessus de la vitesse du son. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion. Je vous ai montré des expériences avec tout ce genre d'expériences qu'on peut faire dans notre univers de bulles. D'abord dans un anneau, quand on rajoute un plan horizontal pour confiner les atomes. Donc on peut faire un anneau statique, le mettre en rotation, observer des courants permanents, y compris avec des déformations quadrupolaires. Donc c'est pas ce qui est utilisé d'habitude. Bon, ça, c'est l'impression de phase. Et puis, bon, avec ce genre de dispositif, ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter des barrières localement pour peut-être essayer de réaliser des analogues de squid, etc. Et puis, je vous ai montré ce qui se passe quand on enlève maintenant le confinement vertical et qu'on est juste dans la bulle et on tourne de plus en plus vite. donc au-delà du réseau de vortex. Quand le réseau de vortex, quand on tourne vraiment à partir de à peu près à la fréquence de rotation et qu'on essaie de faire des temps de vol, donc le réseau de vortex devient des grandes fluctuations de phase. Donc, les images que je vous ai montrées étaient in situ, hein, parce qu'après temps de vol, on voit surtout les fluctuations de phase. Et quand on tourne de plus en plus vite, on peut former un anneau dynamique avec des temps de vie très très longs. Donc les derniers points en temps sur la frise que je vous ai montré, ils sont à 74 secondes. Donc, c'est vraiment des durées de vie extrêmement longues. Et pour obtenir un vortex géant avec nos paramètres, il faudrait qu'on réduise beaucoup le nombre d'atomes. Donc typiquement, si on avait quelque chose comme 400 atomes, on commencerait à atteindre ce régime-là. Bon, c'est quand même un peu un challenge parce qu'il faut pouvoir les voir aussi, ces 400 atomes, et puis vérifier que c'est toujours un état qui est bien froid, donc c'est pas facile. Donc pour ces expériences-là, les choses qu'on aurait envie de faire maintenant, c'est notamment regarder un petit peu plus en détail le spectre d'excitation de cet anneau dynamique, regarder peut-être d'autres types de modes, et puis essayer de comprendre pourquoi ça tourne dans le mauvais sens. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe si on met une perturbation plus locale? Est-ce que l'écoulement s'arrête instantanément ou pas? Comment se passe la dynamique? Voilà, je vous remercie de votre attention.